J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu ce matin, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse, et nous allons lire le chapitre 26. Genèse, chapitre 26, à partir du verset 1er. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit : Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimélec fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « C'est ma sœur » ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimélec dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ?» Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom d'Essec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point. Car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimélec vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau ». Et il l'appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Amen. Père éternel, nous voulons courber notre tête devant toi et te demander que tu viennes à notre aide, pour que par ton esprit, tu nous aides à retirer profit de ce passage que nous venons de lire ensemble. Seigneur, nous savons que tu nous aimes et nous savons que ton amour est éternel. Et nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir ton conseil. Seigneur, pardonne toute la dureté de nos cœurs et quelquefois la résistance à l'action de ton esprit. Seigneur, pardonne-nous, mais en même temps, s'il te plaît, donne-nous de réaliser ce que tu attends de nous pour que nous puissions aller de l'avant et atteindre le but que tu nous as assigné. Seigneur, tu sais que dans notre cœur, notre désir le plus cher, c'est d'être rendu semblable à ton Fils bien-aimé. Alors viens-nous en aide, travaille en profondeur et accorde-nous la grâce de pouvoir être soumis en toutes choses à ce que tu nous révèles au travers de ta parole. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Avec l'aide du Seigneur, je voudrais montrer au travers de cet exemple que la parole de Dieu nous présente, l'exemple de la vie d'Isaac, comment nous pouvons aller de progrès en progrès jusqu'à atteindre ce but que le Seigneur nous a assigné et duquel je viens de faire mention dans la prière, c'est-à-dire être rendu semblable à son Fils Jésus. C'est un programme qui est merveilleux, mais que nous ne pouvons réaliser qu'avec l'aide et le secours du Saint-Esprit. Je voudrais simplement mettre en évidence d'abord qu'Isaac, juste avant cette expérience qu'il a faite et que nous découvrons au travers de ce chapitre, vivait auprès d'un puits qui s'appelle l'Akaï Roï, ce qui signifie le puits du Dieu vivant qui se révèle. Il avait donc une relation étroite avec Dieu. Il vivait sous l'action de l'Esprit Saint qui lui révélait des choses merveilleuses concernant Dieu. Et tant qu'il était dans cette position, la paix était dans son cœur et il y avait une grande bénédiction dans sa vie. Puis est arrivée l'épreuve. Et c'est comme cela que le chapitre que nous avons lu commence. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. On s'aperçoit que les souffrances que nous pouvons connaître, les situations critiques, difficiles que nous pouvons connaître, se répètent, je dirais, de génération en génération. Que ce que nous connaissons, peut-être à l'heure actuelle, n'est pas un cas isolé, mais que, avant, d'autres aussi ont connu les mêmes afflictions, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Et nous devons aussi être très attentifs à la manière dont Dieu est venu à leur secours pour leur permettre de triompher de toutes les épreuves, afin que nous, à notre tour, nous puissions, en imitant leur foi, eh bien, vivre dans un esprit de victoire, de triomphe, dans une joie réelle, profonde, et une paix parfaite étant toujours cachée en Christ, cachée dans le Seigneur. Or, Isaac, au moment où l'épreuve l'a frappé, il aurait dû penser à ce qui était arrivé à son père et tirer profit de l'expérience négative qu'avait fait son père. Parce que, comme moi, vous le savez, quand la famine est arrivée du temps d'Abraham, Abraham a eu une idée, le seul moyen de m'en sortir, c'est de partir en Égypte. Et vous savez aussi, comme moi, que l'Égypte, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de ce monde, de l'esprit de ce monde. Isaac aurait dû se souvenir que son père avait utilisé le mensonge pour se sortir d'affaires et que le mensonge n'est jamais dans le plan de Dieu. Et ici, Isaac va avoir une attitude légèrement différente, dans ce sens qu'il n'est pas devenu un mondain, entre guillemets, au point de partir en Égypte. Mais il est allé à Guérar, qui était la capitale des gens qui sont appelés les Philistins. Alors j'aimerais vous donner un aperçu de ce que je crois sont les Philistins. En réalité, ce sont des gens qui ont une apparence de la piété. Ce sont des gens qui ont, dans la bouche les paroles du christianisme, mais qui malheureusement ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas régénérés, et qui peuvent avoir une influence qui est terriblement négative. Je m'explique. Guérar se trouvait juste à la limite du pays de la promesse. Le livre de la Genèse nous révèle dans un autre passage qu'elle était une ville frontière. L'Égypte était un peu plus loin. Guérar, c'était la ville frontière. Elle subissait donc l'influence de l'Égypte. Comme certaines personnes qui peuvent se trouver dans leur relation avec Dieu juste à la limite. C'est-à-dire, ils ont un certain amour pour le Seigneur, un certain amour pour Dieu, mais ils vivent aussi avec des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ils tolèrent dans leur vie des choses que Dieu ne peut pas accepter. Et ils sont là dans, je dirais, une médiocrité spirituelle qui ne peut pas honorer Dieu et qui ne peut pas glorifier Dieu. Cependant, il faut savoir que même quand on est dans un tel état d'esprit, Dieu cherche à éveiller ce cœur, cet esprit, pour qu'il puisse réaliser des progrès. Je voudrais vous citer un verset qui va éclairer ce que je viens de dire. Dans la deuxième épître de Pierre, il est dit ceci: nous avons reçu de sa part tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et nous pouvons être sûrs que Dieu, dans sa grâce, a pourvu pour que nous puissions ajouter à la foi, la vertu, à la vertu, eh bien la persévérance, la patience. Vous voyez, il y a un progrès qui doit être réalisé jusqu'à ce que nous devenions conformes en tout point à la volonté de Dieu. Il nous prend là où nous sommes, sans nous juger, sans nous condamner, mais en nous disant quand même la vérité en ce qui nous concerne, et puis, au fur et à mesure que nous nous abandonnons entre ses mains, il nous permet de faire des progrès jusqu'à ce que nous connaissions la plénitude d'une vie cachée en lui et que nous connaissions l'abondance de la vie spirituelle. Alors, pour Isaac, c'est comme cela que ça s'est passé. Il est allé à Guérar, il n'est pas allé aussi loin que son père, il a subi l'influence négative des habitants de Guérar, et les habitants de Guérar, eh bien, ont eu une attitude semblable à ce que Abraham avait connu en Égypte, puisqu'ils ont regardé à son épouse, à sa femme, Rebecca, dont il est dit qu'elle avait un beau visage, et ils ont commencé à lui poser des questions à son sujet. Est-ce que c'est ta femme? Et vous voyez, quand on n'est pas totalement engagé avec le Seigneur, alors on utilise comme cela le mensonge ou le demi-mensonge, comme c'était le cas pour Abraham, pour se sortir d'affaire. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Pourquoi répond-il ainsi? La Bible nous dit clairement, parce qu'il avait peur des réactions des habitants de Guérar. Il avait peur. Ça veut dire donc qu'alors que Dieu lui avait dit, je serai avec toi, eh bien, le doute était en lui. Vous savez, quand on est sûr que Dieu est avec nous, alors, quelle doit être notre attitude? Nous connaissons tous ce verset de l'Écriture qui affirme, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Au lieu d'avoir de la crainte, eh bien, il aurait dû être exactement dans la même attitude que le psalmiste, quand il dit, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie, notre visage ne se couvre pas de honte, parce que tu es celui qui nous délivre de toutes nos détresses. Et quand on est sûr de cela, alors on devient inébranlable dans la foi. Mais voyez-vous, il faut être net. Là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas l'authenticité, alors c'est impossible d'avoir cette absolue confiance qui nous délivre de nos craintes, qui nous délivre de nos frayeurs. Pourtant, Dieu avait bien dit à Isaac, reste là. Alors, quelqu'un va me poser la question, et c'est quand même étonnant, parce que d'une part, vous dites que ce n'était pas la meilleure situation dans laquelle il pouvait se trouver, et pourtant, Dieu lui dit, reste là. Vous savez, mes frères et sœurs, que Dieu, parfois, cède au désir de nos cœurs, pour que nous puissions tirer un enseignement des décisions que nous prenons en dehors de lui. Et je voudrais vous donner quelques exemples tirés de la parole de Dieu, mais celui qui est le plus évident, c'est celui qui concerne le peuple d'Israël. Quand il est allé trouver le prophète Samuel, et ils ont dit, nous voudrions être une nation comme les autres. Nous voudrions avoir un roi comme les autres nations. Et Samuel a dit, mais ne péchez pas, ne faites pas ça. Il a essayé de les détourner de cette direction qu'ils étaient en train de prendre, jusqu'à ce que l'Éternel interpelle son serviteur, le prophète Samuel, et lui dise simplement ceci, ce n'est pas contre toi qu'ils en ont, c'est contre moi. Alors, laissons les choses. Finalement, le désir de ce cœur, du peuple, a été accordé. Mais nous savons tous que ça n'a pas été pour son bien. Et ils ont dû à souffrir les conséquences de leurs désirs qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Je pourrais citer d'autres exemples. Et ici, remarquez une chose. Il est dit, Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. C'est seulement après que l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Dieu a vu la direction qu'il a prise. Dieu a vu quel était le désir de son cœur. Et Dieu va utiliser cela pour lui donner une grande leçon et le conduire petit à petit là où il voulait, jusqu'à ce point où même les Philistins seront obligés de reconnaître « Dieu est réellement avec toi ». Au commencement, vous avez vu, les Philistins lui font la guerre et il est obligé de partir, il est obligé de s'en aller, il est obligé de les quitter. Et la seule chose que le témoignage d'Isaac a provoqué dans le cœur des Philistins, c'est de la jalousie, au point qu'ils ont dit « tu es plus puissant que nous, alors va-t'en ». Mais à la fin du chapitre, avez-vous remarqué, leur attitude est tout à fait différente. Et ils disent « maintenant, nous voyons que Dieu est avec toi ». Mes frères et sœurs, qu'est-ce que le monde voit à l'heure actuelle de notre vie, de notre comportement, de nos agissements? Qu'est-ce que le monde découvre? Qu'est-ce qu'il peut dire de notre christianisme? Qu'est-ce qu'il peut dire de notre foi? Est-ce que la seule chose qu'ils peuvent constater, c'est que nous avons une certaine religiosité? Nous avons une certaine forme de spiritualité? Mais peuvent-ils vraiment découvrir que, comme je l'ai entendu ce matin, de la bouche de certains, ce que nous connaissons, nous le vivons. Que ce que nous entendons, nous le pratiquons. Que ce que nous savons, qui est écrit dans la parole de Dieu, est également notre expérience personnelle. Nous savons tous que la volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est que nous connaissions une vie abondante. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que le monde peut voir cela? Dites-moi, mes frères et sœurs, je crois de plus en plus, malgré les apparences, à la puissance et au secours du Saint-Esprit. Malheureusement, au fur et à mesure que nous avançons, il nous semble que cette action du Saint-Esprit est en train de diminuer dans la vie des Églises. Permettez-moi de poser la question, peut-être comme cela brûle pour point et peut-être d'une manière très directe, mais où sont mes frères et sœurs les dons spirituels avec une efficacité réelle, authentique? Où sont les manifestations de la puissance de Dieu pour guérir, pour délivrer, pour que les captifs soient rendus à une liberté totale et à une réelle relation avec Dieu? Où sont les choses que nos pères ont vécues, qui ont été révélées à chacun d'entre nous, parce que nous avons pu voir certaines choses s'accomplir? Où sont-elles maintenant? N'est-ce pas vrai que certains puits de rafraîchissement ont été comblés, bouchés par les Philistins, à tel point même que nous sommes arrivés petit à petit à ne pas nous rendre compte que les puits de rafraîchissement spirituel n'étaient plus à même de nous apporter ce dont nous avions besoin. Qui que ce soit au milieu de nous, et quel que soit le niveau auquel il est arrivé dans le domaine spirituel, tous, mes chers frères et sœurs, nous avons besoin d'un renouvellement. Nous avons besoin d'un rafraîchissement. Nous avons besoin que Dieu nous saisisse et puis que nous mettions de côté toutes les choses qui nous ont préoccupés, qui nous ont travaillés, qui ont été autant de grains de poussière, qui ont fini par combler les puits de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas changé, mais nous avons laissé l'ennemi de notre âme faire des ravages terribles dans notre vie personnelle et par voie de conséquence dans la vie de l'Église. Parce que l'Église n'est que ce que nous sommes. Chacun de nous pour notre propre part. Vous savez, parfois, nous pouvons critiquer l'Église, nous pouvons condamner l'Église, nous pouvons dire « l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être, mais l'Église est ce que nous sommes ». J'aimerais vous donner une petite illustration, donnée par un certain serviteur de Dieu, d'ailleurs mondialement connu. Et il explique qu'à un moment donné, il était dans son bureau en train de travailler et il avait un de ses enfants, vous savez, en bas âge, qui rentrait toujours sans demander l'autorisation dans le bureau et puis avec beaucoup de nervosité, rentrait et disait à son papa certaines choses. Et le papa essayait de répondre, mais au bout d'un certain temps, il était agacé parce qu'il venait sans cesse le déranger dans son travail. Alors, il a pensé à quelque chose. Il y avait un puzzle sur son bureau qui représentait le monde. Le monde, c'est quand même pour un tout petit enfant en bas âge, eh bien quelque chose qui est difficile à saisir, à comprendre. Alors il a défait rapidement le puzzle et il lui a donné, il lui a dit écoute, regarde, je te présente cela, va vite me faire ce puzzle, mets-toi en place. Il se disait avec ça, j'ai le temps de travailler, je n'aurai pas de problème. Mais à peine 10 minutes plus tard, il est revenu. Tout était en place. Le père, il a dit, mais comment tu as fait? Et le petit enfant, il a dit, ah ben, tu sais, regarde, de ce côté, il y a le monde, mais de l'autre côté, il y a un homme. Le monde, je ne sais pas comment c'est fait, mais l'homme, je sais comment c'est fait. Alors, j'ai mis l'homme en place, j'ai retourné, et le monde était en place. L'Église sera en place quand nous, nous serons en place. Il faut que chacun d'entre nous, nous ayons une juste relation avec Dieu, une juste vision de ce que Dieu attend. Quelqu'un va pouvoir me dire, bon, d'accord, Dieu a permis cela, il était à Guérard, mais alors comment expliquez-vous que Dieu l'a béni? Si il n'était pas dans les conditions que Dieu voulait, pourquoi il est écrit qu'il est devenu riche, et très riche, et que tout a été multiplié, le bien matériel en sa faveur. Comment? C'est une contradiction. On ne peut pas être en dehors du plan de Dieu et être béni matériellement. Et si, mes frères et sœurs, la bénédiction matérielle n'est pas une preuve que nous sommes en relation avec Dieu. Vous savez ce qui est écrit? La Bible dit « Je fais lever le soleil sur le juste comme sur le méchant ». Je fais pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Nous pouvons être rendus participants de grandes bénédictions de la part de Dieu. Il y a dans le monde des gens qui sont participants à de grandes bénédictions de la part de Dieu. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur accorde cela et ils n'en sont pas reconnaissants, mais c'est Dieu qui les bénit quand même pour autant. Mais leur cœur n'est pas en relation avec Dieu. La bénédiction matérielle ou les bénédictions, quelles qu'elles soient, ne sont pas une preuve que nous sommes dans une authentique relation avec Lui. Parce que même dans le plus grand des malheurs, quand nous sommes en relation avec Lui, il y a dans le cœur une consolation, une paix parfaite, une joie inexplicable. Voyez-vous, ce n'est pas la joie artificielle qui nous fait avoir un sourire béat, extérieur. La joie du Seigneur, elle est intime et pure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer vraiment. Vous savez, c'est cette joie de laquelle nous avons eu déjà l'occasion de parler. Même quand Jésus était dans la perspective de la croix et d'une grande souffrance, et qu'il a pu s'exprimer de la manière suivante, en disant « Je vous dis ces choses, afin que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. » Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous connaissions sa paix. Non pas la paix comme le monde la donne, mais sa paix, qui est un fruit de l'esprit. Dieu veut que nous ayons sa joie, non pas la joie artificielle qui vient d'une atmosphère que l'on peut créer, que l'on peut susciter, mais cette joie intime et pure, quand on sent que notre cœur bat à l'unisson avec le sien, que nous sommes vraiment aimés de lui et que nous l'aimons aussi en retour. Mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, eh bien, malgré le mensonge, je dirais, et malgré l'attitude d'Isaac, Dieu a continué à le bénir parce qu'il savait quel était le but qu'il allait atteindre. Alors regardez ce qui s'est passé. Isaac devint très riche et puis il a creusé les puits et il a retrouvé les puits mêmes qu'Abraham, son père, ou les serviteurs d'Abraham avaient eux-mêmes creusés et qui avaient été remplis de poussière par les Philistins. Il a enlevé toute cette poussière, mais quand il a fait cela, eh bien, les Philistins n'ont pas supporté. Et ils l'ont chassé. Première étape, il débouche les puits, et puis la parole de Dieu dit qu'il donne un nom à ce puits, au premier puits, le nom d'Essek, parce qu'il y a eu une dispute. Une dispute a éclaté. C'est incroyable ça. Ça passe par là. Dispute. Et ensuite, il en a ouvert un autre. Et puis il y a eu des accusations, il y a eu des calomnies, et il donne le nom de Sitna. C'est étrange. Jusqu'à ce que, par la persévérance, il arrive à en creuser un troisième, et là il donne le nom de Rehoboth, parce que maintenant, il dit « Dieu nous a mis au large ». Vous savez, mes frères et sœurs, le chemin de la recherche de la sanctification, le chemin de la recherche à une véritable communion, à une véritable relation avec Dieu, est un chemin très difficile. Vous vous souvenez d'un ancien cantique qui dit « Le chemin du calvaire est difficile et rocailleux ». Il y a des chemins beaucoup plus faciles. On ne peut pas vouloir accomplir la volonté de Dieu sans être obligé d'être confronté à certaines choses. Les disputes, ça ne devrait pas exister dans l'Église de Jésus-Christ. Et pourtant, les Corinthiens ont connu cela. Ils avaient aussi les dons spirituels. Mais le Seigneur leur fait ce reproche au travers de l'apôtre Paul. Vous possédez tous les dons spirituels et vous vous enorgueillissez de ces dons. Et il leur dit, mais de quoi vous glorifiez-vous? Parce que ces dons, c'est vraiment la grâce de Dieu qui vous les a donnés. Qu'avez-vous que vous n'avez reçu? Et si vous l'avez reçu, à qui revient la gloire? À Dieu. Mais vous, vous les avez utilisés dans un mauvais sens, avec un mauvais dessein. Et malgré votre spiritualité apparente, qu'est-ce qu'il y a? Des disputes, des jalousies, de l'orgueil et de l'impudicité. Une impudicité même telle qu'on ne la retrouve pas parmi les païens. Alors vous voyez, c'est à cause de ça. Quand Paul les a confrontés à certaines choses, alors il y a eu des réactions. Je le comprends. Mais ces réactions, ce sont les réactions de la chair. Puis après, il peut y avoir, comme nous le voyons ici, des accusations fausses. Il y a une sorte de haine qui peut se manifester. Et vous savez, il faut arriver à franchir tout cela. N'ayons pas peur de ceux qui, précisément, peuvent susciter de telles choses autour de nous, dans notre entourage, soit dans notre famille, soit parmi les gens que nous fréquentons dans le travail, soit parfois, hélas, parmi ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont que l'apparence de la piété et qui renient ce qui en fait la force. La dispute sera malheureusement inévitable, mais il faut persévérer. Pour y avoir le reste, mais il faut persévérer. Pour en arriver à quoi? En arriver enfin à Rehoboth, la mise au large. Enfin la mise au large. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que de voir un peuple qui vit sous un joug qui est un joug de l'être humain. C'est la raison pour laquelle je disais cette semaine, mais sans pouvoir approfondir vraiment cela, mes frères et sœurs, n'acceptons jamais, jamais qu'un être humain, quel qu'il soit et quel que soit son titre, s'ingère dans nos affaires personnelles. La Bible condamne quelqu'un qui a tendance à s'ingérer dans les affaires d'autrui. Nous n'avons pas à faire cela. Mais tous, par contre, nous avons le devoir de dire « Saint-Esprit, sonde mon cœur ». J'ai pas envie que quelqu'un vienne me juger. J'ai envie que l'Esprit de Dieu me juge, qu'il me sonde, qu'il mette en relief ce qui est caché dans les replis de mon cœur. Ça, ça peut être le partage même de quelqu'un qui est le plus spirituel parmi nous. Vous savez, il y a des moments où l'on peut se retrouver face à face avec le Seigneur et où il met le doigt sur certaines choses que nous ignorons nous-mêmes. Pas seulement dans notre entourage, mais nous-mêmes. Parce que qui a le pouvoir de connaître vraiment son cœur? La Bible dit que le cœur naturel de l'homme, il est méchant par-dessus tout. Et c'est la raison pour laquelle ça nous arrive à tous. Je pense que vous en avez fait l'expérience de vous retrouver tout seul devant le Seigneur et de pleurer amèrement. Parce que vous vous dites, c'est ça? Avec tant d'années, c'est ça encore ma vie pour le Seigneur. Et alors on est obligé de crier vers lui. Mais il est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Et si nous sommes attentifs, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va la rendre parfaite. C'est ce qu'il a fait ici. Il l'a prise à acte comme ça, avec tous ses défauts, son mensonge, ses désirs qui n'étaient pas ceux de Dieu, étant là dans un lieu qui était frontière avec le monde. Écoute, mon frère, ma sœur, il y a peut-être des choses que tu n'oses dire à quelqu'un ici au milieu de nous parce que tu as peur d'être jugé, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce qu'on a fait tellement de mauvaises expériences dans ce domaine. Mais alors laisse-moi quand même te parler avec mon cœur. Ce que tu ressens et que tu pratiques en dehors de la communion fraternelle, Dieu le voit, Dieu le connaît, Dieu il sait ces choses-là. Et il y a des choses qui dans le fond ne t'apportent aucun bien, auxquelles tu t'abandonnes, auxquelles tu te livres, parce qu'il y a une certaine satisfaction, un certain plaisir. Mais c'est le plaisir de la chair, une satisfaction simplement pour ton cœur naturel. Et je voudrais te dire, il y a beaucoup de choses qui sont permises. D'ailleurs, la Bible dit tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et ce sont ces choses-là qui te bloquent. Ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'ouvrir la bouche et de louer Dieu comme tu devrais le faire. Ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'être un véritable adorateur et un esprit en vérité. N'essaie pas de me pousser à dire ces choses-là, parce que moi, je ne peux pas te les révéler. Mais le Dieu qui se révèle, il peut te les montrer. À une seule condition, que tu creuses les puits. C'est-à-dire, sonde l'Écriture. N'attends pas seulement que le pasteur vienne ici expliquer certains passages, te dire certaines choses. On ne devrait pas vivre seulement de, ou dépendre seulement de ce que l'on entend le dimanche matin ou le mardi soir. Écoutez, mes frères et sœurs, c'est ça l'exercice de la piété, être en relation avec Dieu chaque jour, en cherchant en priorité à mieux le connaître pour mieux le servir. Permettez que je dise encore ce matin, vous voyez, on ne devrait jamais venir ici comme une batterie vide. On devrait venir ici rempli du Seigneur et dans la communion fraternelle. Alors d'autres choses merveilleuses pourraient s'accomplir et se réaliser. J'ai soif que dans ce lieu, il y ait des âmes qui entrent et que leur vie soit dévoilée et que par la puissance du Saint-Esprit, ils soient changés et transformés. J'ai soif de voir des hommes venir atteints dans leur corps et le Seigneur les toucher et les guérir. Est-ce que c'est trop demander cela? Est-ce que notre Dieu a changé? Je crois que non. C'est la raison pour laquelle, si lui n'a pas changé, c'est que nous, quelque part, eh bien, nous nous sommes trouvés dans une situation que Dieu ne veut pas. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Et le dernier mot, eh bien, c'est celui qui vient à la fin de ce passage. Maintenant, disent-ils les Philistins, maintenant nous voyons l'Éternel avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Quel changement! Quelle transformation! Je dirais, mais quel miracle! Je voudrais simplement vous dire que dans le livre de l'Apocalypse, à une certaine église, il est dit ceci de la part du Seigneur: « Je les ferai venir vers toi pour qu'ils reconnaissent que je t'ai aimé. » Et vous savez, ça c'est la chose la plus précieuse qui soit. Mes frères et sœurs, voulez-vous prier le Seigneur cette semaine? Dans ce sens-là, dans votre bureau, dans votre chambre, dans le lieu secret, voulez-vous le chercher à titre personnel, plus intensément, pour que quand nous nous retrouvions ici, eh bien ce soit avec une vision différente et que la gloire de Dieu soit manifestée. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de pouvoir nous soumettre. Tu es grand et tu es puissant. Et je sais que tu as une vision pour ton peuple qui est une vision de bonheur, des projets de bonheur et non pas de malheur. C'est pourquoi nous crions à toi, pour que tu nous aides, chacun d'entre nous, à faire le point avec toi, à nous dépouiller, Seigneur, de notre ancienne nature et de ce qui la caractérise, et à nous revêtir des armes de lumière, et également être animés de tes sentiments. Seigneur, viens-nous en aide. Je te prie, scelle ta parole dans nos cœurs par ton esprit, et conduis-nous plus loin avec toi. Nous te le réclamons de tout notre cœur et dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va laisser, je crois, un frère faire les...